tout à l'heure.
C'est donc cette bande originale avec Leïla Kadoboudadi. Bonjour ma douce.
Bonjour, bonjour Nagui, salut.
Daniel Morin, bonjour Daniel. Et nous serons tous les trois avec nos invités au téléphone. Une émission un peu spéciale, cette bande originale, puisque nous avons, nous allons avoir au téléphone différents intervenants qui vont venir témoigner de leur présence et de leur amitié pour Christophe, qui nous a malheureusement quitté cette nuit avec des chansons qui évidemment ont marqué notre esprit. Et je voulais ouvrir cette émission avec évidemment les mots bleus, parce qu'elle représente tellement de choses dans la carrière de Christophe et dans la mémoire collective. On gardera de l'image de ce dandy magique, charmeur, charmant, génie aussi de toutes les idées, les innovations musicales qu'il pouvait faire. Il n'aimait pas, quand il interprétait des chansons déjà de son répertoire, les faire deux fois de la même manière, parce qu'il expliquait qu'il y avait toujours mieux et autre chose à proposer au public. Les mots bleus, c'était il y a 14 ans dans Taratata, et je vous propose de le réécouter maintenant.
Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Ce qui rend les gens heureux, je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne tout le prix. Avec les yeux, toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Reste une rancœur subtile qui cacherait l'instant fragile d'une rencontre. D'une rencontre, je lui dirai les mots bleus, ce qui rend plus besoin du protocole et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retours. lui dirai tous les mots bleus, tout ce qui rend les gens heureux.
Voilà ces mots bleus qu'avait chanté Christophe en live dans Taratata. Ça rend pas les gens heureux, ça rend les gens plutôt malheureux. Bonjour Jean-Michel Jarre.
Bonjour Nagui.
Auteur des paroles de cette sublime chanson. Bonjour. On est tous tristes et j'imagine que tu l'es également. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur Christophe, sur votre travail, sur votre amitié?
Bah, tu sais, pour moi aujourd'hui, comme tu peux imaginer, c'est d'avoir la disparition d'un membre de ma tribu, d'un ami et d'un complice totalement unique. Et j'associerais à notre relation Francis Dreyfus, qui était notre grand producteur de disques
éditeur.
Et d'éditeur, qui a aujourd'hui disparu, qui a été à l'origine de notre rencontre. Et on a travaillé tous les trois en trio sur les deux albums. Qui sont un peu des albums fondateurs des Paradis Perdus et les mots bleus. Et c'est vrai que ce qu'il y a de paradoxal aujourd'hui, ce qui est encore plus triste, c'est qu'on puisse pas lui dire au revoir. Il est parti dans la solitude d'une ville de Bretagne qui n'est pas son histoire. Son histoire, c'est Tanger, c'est le Midi, c'est l'Italie, c'est Paris. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on puisse lui rendre hommage autant qu'on peut aujourd'hui. Qu'on puisse lui dire au revoir, parce que je ne vais pas pouvoir le faire.
Oui, avec une tendre pensée pour son épouse et pour sa fille, et évidemment. Oui, absolument, qui a réalisé d'ailleurs, et il était très fier il y a quinzaine de jours quand on a pu faire un dernier Taratata ensemble. Il m'avait montré une guitare qui avait été peinte par Enki Bilal à partir d'une photo que sa fille Lucie avait réalisée.
Oui,
et
oui.
Il était tellement fier du travail et de la beauté artistique de sa fille Lucie. Je voulais savoir, quand tout à l'heure je disais que c'était un génie de dans le travail, justement, dans la manière dont il produisait, il était en permanence en train de chercher des sons sur ses synthétiseurs, ses ordinateurs, dans son studio.
Alors oui, c'est ce qui est cruellement ironique, c'est que c'est vraiment un artiste qui pratiquait le confinement dans sa vie. Donc il part au moment où le confinement est généralisé. C'était quelqu'un qui était capable, ce qu'on a fait ensemble, d'ailleurs, de passer des semaines sans sortir en studio. Et je repense à tous ces chansons qu'on a écrites et que j'ai écrites pour lui, que ce soit les mots bleus qu'on vient d'entendre, les paradis perdus, le dernier Vivillacqua, le Signorita et bien d'autres. Il avait justement aussi cette manière très innocente d'aborder le son et d'aborder même l'interprétation de chansons qu'il avait chantées mille fois, comme si, avec une sorte de regard d'enfant, d'innocence, il avait l'air de découvrir à chaque fois les mots, découvrir les sons. Et c'était en plus dans le dernier studio dans lequel tu es peut-être allé, cette espèce de navire amiral où il était debout jusqu'à 5 heures du matin dans ses bottes de mousquetaire avec sa moustache, ayant l'air d'une sorte de Don Quichotte pop à la recherche de moulins à vent sonores. Comme ça, il y avait cette dimension qui allait bien au-delà du chanteur. D'ailleurs, lui-même ne se disait pas du tout chanteur. Moi, je fais des sons avec ma bouche. En fait, je pense que ça, c'est aussi pour ça qu'on s'est beaucoup retrouvés. C'est qu'en fait, j'ai toujours abordé les chansons avec lui sur un plan sonore, avec cette façon inimitable de faire du yaourt, ce qu'on appelle, ce que tu connais, ce que tu en parles souvent à Taratata. Mais ce qu'on oublie, c'est que Christophe, c'est vraiment lui qui l'a inventé, cette histoire de yaourt. C'est-à-dire le fait, pour les gens qui nous écoutent, de annonner en fait des mots sans signification, qui sont des consonances un peu anglo-saxonnes, qui permettent de poser des mots dessus. Et c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré dans le travail que j'ai pu évidemment faire avec lui.
Et puis Jean-Michel Jarre, c'est aussi quand vous parlez du travail de recherche de Christophe, on a la sensation que ça se limitait même pas qu'à la musique, ça allait bien plus loin. Je crois qu'il avait des velléités aussi en tant que comédien, en tant qu'acteur. On l'a vu récemment dans le film de Bruno Dumont, dans Jeanne, faire une apparition, une sorte d'épiphanie comme ça, recouvert, où il s'est mis à entonner, je crois, un texte de Charles Péguy.
Oui, il était totalement imprévisible, Christophe. Il faut pas oublier que c'est une sorte d'animal à diverses mutations. C'est-à-dire qu'au départ, il avait quand même un physique à la James Dean. C'est-à-dire que ses références, d'ailleurs, on s'est beaucoup retrouvés. C'était à la fois, Christophe, au départ, le James Dean de La Fureur de Vivre et le Vitelloni de Fellini en même temps. Il y avait cette double culture, cette double passion italo-américaine qu'on avait d'ailleurs en commun et qui l'a toujours passionné. Et il aurait pu faire, à mon avis, une beaucoup plus grande carrière au cinéma s'il avait voulu le faire. Il a jamais osé non plus le faire. Et puis, petit à petit transformé, comme nous tous, physiquement, et il est devenu quelqu'un d'autre dans la deuxième partie de sa vie. Et effectivement, ça devenait vraiment un quelqu'un avec une gueule qui aurait pu faire beaucoup plus de choses au cinéma qu'il ne l'a fait. Mais c'était un acteur dans la vie, c'est un acteur dans sa vie, et c'est ça qu'on aime chez lui aussi.
Ouais, il jouait, mais il était aussi d'une sincérité, avec une amitié forte et qui restera inoubliable. Merci Jean-Michel Jarre d'avoir pris le temps d'apporter ce témoignage sur Christophe. Je sais que vous serez tout à l'heure au journal de 13h de France Inter pour parler à nouveau de lui, parce que on est triste, mais on a envie de parler, de réentendre aussi beaucoup de musique de Christophe, y compris celle avec lesquelles sur lesquels vous avez collaboré tous les deux. Merci Jean-Michel Jarre. Merci. Portez-vous bien, prenez soin de vous aussi. À bientôt.
Oui, vous aussi.
C'est Raphaël qui a la gentillesse d'être avec nous également ce matin.
Bonjour Nagui.
Bonjour Raphaël. Bonjour. Tu as été le premier à me répondre ce matin par texto en me disant mais évidemment il faut qu'on parle de Christophe. Tu as travaillé avec lui, tu as collaboré avec lui. Quelles sont les images qui te viennent?
Tristesse, c'était un immense artiste. C'était une des chansons que Jean-Michel Jarre et Christophe ont écrites. C'est pour moi les plus belles chansons françaises qui ont jamais été écrites, les Paradis perdus ou les Mots bleus. C'est des chefs-d'œuvre intemporels. Et puis c'était une source d'inspiration. Et puis c'est devenu un ami. Alors on se voyait pas tout le temps, on se parlait. On se voyait surtout sur scène parce qu'on s'invitait souvent à chanter sur
l'un et l'autre.
L'un et l'autre, ou sur des disques ou en concert. Mais par contre, on se parlait très régulièrement, peut-être toutes les semaines ou toutes les 15 jours. On s'envoyait des textos. On savait pas très bien si c'était l'aube ou si c'était la nuit, si c'était la fin ou le début de quelque chose. À chaque fois, c'était entre 5h et 7h du matin qu'on s'écrivait. On était dans des rythmes inverses.
Alors, tu as raison d'en parler parce que c'est
couché, je crois, à 7h.
Ouais. Exactement. Et justement, on va écouter un témoignage, une interview de Christophe. Non, je voulais dire que pour évoquer justement ce rythme de vie très particulier de Christophe, et c'est ça qui était dingue, c'est-à-dire qu'il pouvait envoyer un texto à 4h, à 5h du matin parce qu'il avait une idée, parce que il, moi, pour encore une fois pour l'anecdote, c'est l'un des artistes qui m'a envoyé un texto à 4h du matin en me disant est-ce que je peux venir chanter dans ta ratata la semaine prochaine parce que j'ai une idée, j'ai une envie, et c'était à 4h du matin. Ouais. Et c'est le genre de texto où tu réponds évidemment avec un cœur derrière. Et écoutons d'ailleurs Christophe parler de son rapport à la nuit. C'est une interview que l'on avait entendue sur France Bleu. C'est pas grave, on l'a pas, mais ce que l'on va faire, c'est qu'on va reparler de la musique et d'un peu menteur, ouais, parce que c'est un titre que vous avez partagé tous les deux, mais par élégance, Raphaël, tu as dit non, moi je veux entendre la version originale
d'un peu menteur. Qui est une merveille. Et puis bon, c'est tellement triste, et il avait encore tellement de choses à dire. La semaine prochaine, on devait chanter ensemble au Rex, je crois fin du mois. Puis il était tellement créatif. Ouais. Moi, il y a 15 jours, il m'a envoyé des sons, des choses comme ça. Enfin, il avait 1000 chansons encore. Lui. Enfin, c'est vraiment perdre un ami, quoi. C'était une merveille. Une merveille.
On l'a enfin à l'archive, voilà, où il parle de la nuit et son rapport à la nuit, Christophe.
J'ai toujours aimé le lit. J'ai toujours aimé traîner tard la nuit, écouter des disques, hein, à penser, à faire tout ce qui me passait par la tête, à sortir, à traîner, à rentrer, à pas me lever le matin, quoi.
Ouais, c'est ça. Et ça, c'est pas avec le temps, ça, c'est pas arrangé.
Magnétique, hein. C'est une voix magnétique, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est parce que je évidemment qu'on allait parler de lui, qu'on allait réentendre ses chansons, mais j'avais aussi, tu as raison, envie d'entendre sa voix parce que justement, c'était aussi c'est comme un instrument de musique, sa propre voix et la manière avec laquelle d'ailleurs il produisait les voix des autres. Quand vous avez travaillé, d'ailleurs, il s'est servi de ta voix comme d'un instrument.
Ouais, tout ce que disait Jean-Michel Jarre était tellement juste sur ce côté magnétique d'acteur, que là, quand on entend sa voix quand il parle, c'est presque Brando, quoi, sa manière dont il pose les mots. Alors, peut-être qu'il était traqueux, qu'il n'est pas devenu acteur pour ça, ou peut-être qu'il était tellement dans la musique. Moi, quand j'ai enregistré avec lui, rendez-vous, alors, c'était au studio de Philippe Dard, rendez-vous à, je sais pas, à 2h du matin, il arrivait à 3h30, et puis, moi, j'avais amené un bouquet de fleurs et on enregistrait comme ça au milieu de la nuit. C'était, et puis après on écoutait des trucs, on parlait d'autres choses, on parlait de cinéma américain beaucoup. Enfin, chaque fois qu'on se voyait, c'était spécial, quoi.
Ouais. Et puis comme tu le dis, très très ouvert sur tous les arts possibles et imaginables. Voici un peu menteur. Ouais. Merci Raphaël. Porte-toi
Merci
bien.
Merci beaucoup. Porte-toi bien. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort.
Je t'embrasse.
Merci.
Ciao.
Je traîne. Le feu rouge passe au vert, ce trottoir, quelle galère. Je traîne. Un mec m'a regardé, je ferais peut-être mieux de me poser. Ouais. Des Italiens, le bar est ouvert et la musique sonne super dans cet endroit désert. Boulevard des Italiens, le bar est ouvert à tous les cœurs verts comme moi visiteur. Trois parties au compteur du flipper. Je regarde l'heure, j'ai peur. Je traîne. Elle n'a qu'à traverser. J'arrêterai mon ciné. Je l'aime. Pas besoin de se parler. Juste un petit endroit pour rêver. Boulevard des Italiens, le bar est ouvert. La musique sonne super dans cet endroit désert. Boulevard des Italiens, le bar est ouvert à tous les cœurs verts comme moi visiteur.
Un peu menteur.
Y'a plus de parties au compteur du flipper. Je regarde l'heure, j'ai peur. Juste un peu menteur.
Voilà, on aimerait que tout ça soit un mensonge, cette information qui nous a pas réveillé, peut-être même choqué, rendormi un tout petit peu. On est là, chacun chez soi, dans le confinement. On peut même pas se prendre dans les bras ou s'embrasser ou lui rendre un dernier hommage sur un concert en mémoire de Christophe. Ça se fera de toute façon. Ça peut pas se faire autrement qu'en musique avec quelqu'un comme Christophe. On va évoquer sa musique, son travail, ses amitiés avec Juliette Armanet. Bonjour Juliette, merci d'être avec nous ce matin pour évoquer Christophe, votre rencontre et votre travail. Elle s'est faite comment d'ailleurs votre rencontre, Juliette, avec Christophe?
Bonjour. Eh ben, on s'est rencontrés à Rome il y a 7 ans, à la Villa Médicis. J'étais là-bas pour rendre visite à un ami et il était là et j'étais complètement surexcitée à l'idée de rencontrer Christophe qui était dans ma vie musicale depuis toujours. Et voilà, il a dit j'aimerais qu'on joue autour d'un piano et il s'est mis à jouer. J'ai l'impression d'être dans un rêve, quoi. Je voyais Christophe qui jouait du piano et voilà, ça s'est fait en Italie. Je suis contente que ça se soit fait là-bas parce que c'est lui l'Italie aussi, quoi.
Ah ouais, son nom de famille sonne et est italien, il a des racines italiennes. Et puis vous avez chanté ensemble la Dolce Vita, justement. Et comment on travaille avec Christophe? Comment on l'écoute? Comment on lui suggère des choses? Comment ça se passe? Parce que c'est évidemment, tu l'as dit, cultissime les concerts de Christophe. Et il y en avait jamais deux qui se ressemblaient. Les versions, je le disais tout à l'heure, chaque fois qu'il reprenait une de ses chansons, il les faisait jamais deux fois de la même manière, il était toujours en train de chercher quelque chose de nouveau, de surprenant, d'original. Ça devait être très enrichissant d'échanger avec lui.
Souvenir qu'on chantait donc la Dolce Vita ensemble à Taradata justement, et je me souviens très bien qu'il m'avait proposé de répéter chez lui la veille, donc voilà, Christophe il vivait la nuit, et en fait on a juste écouté de la musique, mangé des olives, et puis vers 23h je lui ai dit mais Christophe là on joue demain, il faudrait peut-être qu'on répète. Et il m'a dit mets-toi au fagioli, il a un fagioli extraordinaire, un piano. On a joué 10 minutes et il m'a dit on fera comme ça. Je lui ai dit mais attends, c'est dingue, c'est faut qu'on répète. Et en fait, c'était pas comme ça qu'il travaillait. Il vivait la musique dans l'instant, tout le temps. Et du coup, cette Dolce Vita qu'on a chantée ensemble, c'était presque la première fois qu'on la jouait comme ça. Et c'était sauter dans le vide complètement tout le temps. Sauter dans le vide avec juste comme fil l'émotion du corps, des sons, l'émotion des regards, l'émotion de sa voix. Et justement, il n'y avait pas du tout de recherche d'efficacité, de perfection. Il y avait la quête d'une bizarrerie, d'une beauté toujours un peu mélancolique, quelque chose qui était jamais vif dans le passé. C'était un mec qui n'a jamais vécu dans le passé. Pour moi, Christophe, c'est pas du tout un musicien d'une génération d'avant, c'est vraiment un musicien d'aujourd'hui. Tout le monde attend ses albums comme on attend les albums de quelqu'un qui vient d'émerger, quoi. Il a été tellement inspirant pour tout le monde, les vieux, les jeunes et les gens de demain. Il avait ce rapport à la musique qui était un rapport complètement immédiat, sensible. C'est difficile. Je sais pas, il parlait de lui comme peintre sonore. Je trouve que c'est joliment dit. Il y avait cette notion d'impression.
Il adorait la peinture.
Ouais, il adorait la peinture et aussi tout ce qui était poétique. Quand vous dites, Juliette, que son beau était étrange, son beau était bizarre, c'est ce concept de Baudelaire qu'il a fait sien dans un titre d'album qu'il a vraiment développé. Et puis il y avait toujours, je trouve, cette sensation de... pas de confusion, mais une frontière un peu ténue entre le branché et le kitsch chez Christophe. Toujours avec quelque chose qu'il cultivait d'ailleurs.
Bien sûr, tout ce vocabulaire du scooter, du smoking, chanter l'amour, et puis surtout une masculinité extrêmement particulière avec une voix de diva, un peu futuriste, un peu bizarre, justement. Et puis en même temps, ce brouillard, cette étrangeté, ce mystère qui était complètement magnifique, tellement rare, ça ne l'a jamais empêché d'être quelqu'un de très accessible et d'incroyablement généreux. Et de, je crois qu'on a tous des souvenirs avec Christophe, il n'y a qu'à regarder les réseaux là. Sociaux aujourd'hui, tout le monde a une anecdote. On lui a emprunté des claviers, on a passé des nuits à jouer aux échecs, on lui a fait écouter des maquettes un peu pourries. On a tous des souvenirs avec lui. Donc bizarrement, ce côté très mystérieux, où il était enveloppé d'une brume mythique comme ça, ne l'a jamais empêché d'être incroyablement accessible et d'être dans le présent avec les gens et d'être à la fois une légende et d'en jouer avec un bagout et une classe incroyable et en même temps d'être un ami quoi aussi parce que je pense que pour plein de gens aujourd'hui c'est un ami aussi qu'on perd quoi et ouais c'était quelqu'un de tellement rare quoi c'est complètement inadmissible cette disparition.
Voilà. Je t'embrasse tendrement, Juliette, porte-toi bien, et c'est justement avec la douce vie, cette Dolce Vita, que nous allons écouter maintenant Christophe et Juliette Armanet. Je t'embrasse, Juliette.
Vous prenez soin de vous, à bientôt.
À bientôt.
Tous les soirs sans fin, je traîne sur ma veste. Gilet de satin, c'était la Dolce Vita.
Cherchais l'aventure, ce petit matin.
Je me prenais pour Bénur,
en conduisant d'une main.
Mais je t'ai rencontré. Et puis tout a changé.
Piège était facile.
Je ne t'oublie pas.
Voilà, pour une chanson qui n'a pas été, comme le racontait Juliette, qui n'a pas été répétée, travaillée, quelle sensibilité, quel talent à fleur de peau. À l'instant, Dolce Vita, Christophe avec Juliette Armanet. Et Pascal Obispo est avec nous. Merci Pascal et merci pour ta patience parce que on prend le temps d'écouter les témoignages de tous ces amis artistes, amis dont tu faisais partie. Pascal, puisque vous étiez ensemble quelques heures avant le confinement en plus.
Oui, oui, en plus, ouais. Bon, bonjour, salut, bonjour à tous.
Bonjour ouais. Pascal,
bonjour.
On est un peu, ouais, moi je suis un peu abasourdi, c'est vrai que je suis en train encore de relire les derniers messages qu'on s'est envoyés.
Ouais, oui, pareil,
on a dû passer, ouais. On a passé une soirée ici à c'est la fou. Maison, comme on faisait d'habitude, ouais. C'était soit chez lui, soit au studio, soit voilà, à la maison. Et puis bon, c'est vrai que Christophe, c'était plutôt très très tard en général, puisqu'il se couchait à 10h du matin et se levait à 14h de l'après-midi. Bon, donc fallait choper les horaires, mais c'est vrai que voilà, moi ça fait 25 ans que je le connais, et ça fait j'ai d'abord rencontré un maître quand j'avais... quand j'ai commencé la musique, mais ça commençait très tôt, parce que c'est une histoire que je racontais tous les soirs sur scène, parce qu'il a gentiment bien voulu participer à une des chansons de mon dernier album, Poète Maudit. Et moi, je l'ai rencontré lors d'une boum en 74, et j'avais dansé mon premier saut sur les mots bleus, donc c'est quelque chose qui lui. Il a une fille qui s'appelle Lucie, donc ouais. on a plein de choses en commun, et c'est vrai que... Et au fur et à mesure de la vie de ces 25 ans, voilà, qu'on se connaissait, on a fait plein de choses, mais et puis on est devenu de plus en plus proches. Donc c'était des messages, voilà, c'était des messages hebdomadaires. Et il y a des moments où on s'appelait, ça durait très très longtemps les conversations avec Chris. Donc c'est difficile, tu vois. Je suis en train de relire son dernier message parce que tu sais bien, bon, il avait un emphysème, un problème pulmonaire et voilà, donc je lui ai demandé comment ça allait, et puis il m'a dit, bon, mon emphysème, tu vois, je te lis ce qu'il m'a dit, mon emphysème est au rendez-vous, ça va aller, pas de danger, mais je fais comme il se doit pour protéger la vie, elle est belle la vie, j'adorais regarder ça en 97, pardon, excuse-moi, ça me...
Non, je te comprends.
Ça m'émeut, donc voilà, quoi, c'était un, comment dire... C'était un.
Mais moi, je lui en veux.
Pardon.
Ouais. Non, moi je disais que je lui en veux parce que son dernier texto c'était on mange comme prévu chez Hervé la semaine prochaine. Voilà, on avait calé le truc et quand t'as un pote qui te dit on mange ensemble, bah, tu dis bah il faut y aller quoi, il faut être là.
Bah, avec Christophe, c'était toujours des moments particuliers, des moments qu'on passait ensemble. C'est vrai que c'est toujours, ouais, je te disais, c'était vraiment quelqu'un de très précieux. C'était comme, tu sais, une petite boîte à musique, quoi. Et tu sais qu'à l'intérieur, tout est fait de diamants, tout est rare, tout est beau, tout est élégant. Il a toujours été, moi, depuis que je le connais, un amoureux du détail. Voilà, la recherche du son absolu. Quand il chantait chez moi, dans mon studio, j'ai d'ailleurs publié une photo sur les réseaux sociaux, une photo qu'il adorait, que j'avais prise sous la console, puisque c'est vrai qu'il chantait sous les consoles. Alors on dressait une petite comment dire un petit décorum, on mettait des bougies, on se mettait tous accroupis, enfin tous les deux accroupis sous la console, et puis on chantait comme ça. C'était toujours extrêmement particulier avec lui, et c'était vraiment des moments très chers et très très rares, quoi. Et on adorait passer ces moments. Moi j'adorais passer ces moments avec lui parce que c'était toujours différent, c'était toujours beau, voilà. Donc
et le temps n'avait pas d'emprise sur lui, c'est-à-dire que non, je disais, le temps n'avait pas d'emprise sur lui, aussi bien en termes de carrière, sur tout ce qu'il a pu faire, que le temps d'une soirée ou le temps d'un verre ou d'une bouffe ou d'un travail. C'est-à-dire que c'était pas. J'ai l'impression que il vivait dans une autre dimension de temps. Il prenait son temps et tu as raison. Il allait chercher toujours le détail de régler les choses le plus possible parce que tout pouvait toujours être mieux.
Ouais, c'est Mais tout était beau avec lui. Toutes les petites choses étaient mises en avant. C'est marrant. Il vivait quand on allait chez lui. Enfin bon, je suppose que voilà, t'as déjà été chez lui. Mais c'est vrai que c'était comme un petit musée. Je me souviens, tu passais dans toutes les pièces et c'était vraiment, c'était l'univers de Christophe. Mais c'est vrai qu'il était immortel quand on le voyait. Il y avait pas d'histoire de temps. C'est de toute façon. Et tu me connais, hein, Moi, je me lève à 4h-5h. Bon, on doit se voir à 8h. Il arrive à 10h. Au minuit, et puis on passe la soirée, mais ça, voilà, la soirée, ça dure jusqu'à 4h du matin. C'était un oiseau de nuit, c'était. Bon, enfin, moi, je retiens surtout l'extrême gentillesse, l'extrême douceur, l'écoute.
Est-ce que vous parliez de la manière dont le métier se comportait, parce que il a eu une période Pardon.
Il aimait pas trop le show business, comme il disait.
Voilà.
Moi, je suis pas là-dedans, moi. Tu sais, voilà. Bon, c'est comme ça. Et on se retrouvait un petit peu aussi dans ce genre d'idée. Il a eu trois vies en fait. Enfin, il a eu plusieurs vies. La première vie, c'était la vie d'Aline des années 60.
Vieille.
Ensuite, il y a eu la vie des mots bleus. Et puis ensuite, il y a eu le début à partir des années, on va dire 90. Moi, quand j'ai signé mon premier contrat en 91, il était chez Epic. Il a eu cette vie-là où tout d'un coup, la vie d'un chercheur, la vie d'un amoureux des sons qui n'a pas cessé de faire des recherches. Et pour son dernier album, quand il m'a proposé de participer, je lui ai déniché une chanson. Il me dit ah là là, cette chanson-là qui s'appelle Le Tourne-cœur. Et c'est vrai que ça faisait partie de nombreuses chansons qui sont peut-être presque inconnues de Christophe. Mais je savais que le choix allait lui plaire parce que c'est une chanson tellement, tellement, tellement délicate. On l'avait chantée sur scène en concert. J'étais venu avec, j'étais venu chanter. C'était la dernière fois que je chantais avec lui. Et franchement, il y aurait tellement de choses à dire sur cet homme qui nous manque, quoi. Franchement.
Ouais, mais on va continuer de l'écouter. C'est ça la force aussi des artistes. C'est qu'ils sont avec nous pour la vie. Ils font partie de notre vie parce que c'est la bande originale de notre vie, Christophe. On a, comme toi, on a fait des booms sur Aline. On a hurlé sur Succès Fou. Et puis, on a pleuré. Et on continuera sur Des Paradis Perdus ou d'autres chansons. Et là, toi, t'as choisi Drone. Alors, explique-nous le choix de cette chanson, Pascal.
Parce qu'en fait, parce que plus il avançait dans sa recherche, et finalement, plus il se rapprochait aussi d'une écriture assez, j'allais dire traditionnelle dans le couplet-refrain, parce qu'il est quand même passé par des stades très étranges et mystérieux.
Des recherches.
Et là, il s'était un petit peu, il avait mélangé un petit peu les deux. Dans son dernier album, enfin le dernier album studio, pas les deux albums de duo qui sont magnifiques, mais l'album studio Vestiges du Chaos. Et je trouve que cet album est fantastique vraiment. Et je conseille à tout le monde qui ne connaisse pas, qui ne connaisse peut-être que les anciens succès de Christophe, d'écouter vraiment cet album qui est pour moi un vrai chef-d'œuvre, Vestiges du Chaos. J'ai choisi dedans une chanson qui me semble être une des plus belles, une de celles qui préférait de toute façon aussi, qui s'appelle Drone. Voilà, tout simplement. Quand j'écouterai cette chanson, je ne l'ai pas écoutée depuis, je pense que ça va beaucoup me toucher.
Bon, on va l'écouter tout de suite. Je t'embrasse, Pascal. Merci, porte-toi bien.
Merci, Nagui.
Je t'embrasse.
De nous deux ensemble, contre ma volonté. Le contraire de l'air, je veux la terre, de l'eau, je veux le feu. Reste en moi qui te pousse à partir.
Christophe qui ne nous a pas quittés, hein, c'est tout. C'est Christophe est parti, oui, mais il sera toujours avec nous à l'instant. Drone que Pascal Obispo nous a proposé de réentendre. Et je vais simplement vous dire que lors de la dernière interview que j'ai eu la chance de faire avec Christophe, et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'était lui qui m'avait dit, parce que on programme pas Christophe dans une émission, c'est Christophe qui vous dit s'il veut venir ou pas. Et c'est ça la classe de Christophe. Donc c'était « Je viens la semaine prochaine ». Bah, on va trouver une place, il n'y a aucun problème. Et sur ce plateau, il m'avait parlé de son meilleur ami, de son ami, et il m'avait parlé de vous, François Armanet. Il avait évoqué votre amitié et la manière dont vous lui aviez fait une explication de texte de chanson. Bonjour François, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à l'Obs et vous avez réalisé la bande du Drugstore pour la petite anecdote. On parlait de cinéma tout à l'heure et beaucoup de documentaires sur...
filles, notamment sur les filles, le rock, la gestion des filles dans le rock et de la posture qui était super.
Oui, oui. Alors, pour les membres du Drugstore, il y avait une bande-son assez formidable, mais il y avait Aline. Il y avait Aline et Alice Taglioni, elle est maître dans un jukebox Wurlitzer qu'aurait collectionné Christophe. Elle allait mettre Aline, et bon, et à l'époque, on lui disait non, attends, arrête cette guimauve. C'est de la merde. Nous, on aime Otis Redding, Aretha Franklin, on veut surtout pas entendre ça. Et évidemment, on avait tout faux, parce que pour lui, Aline, c'était un blues. Et quand il la réinterprétait ou réinventait au fil du demi-siècle, où il a été un chanteur populaire, il savait marier l'avant-garde et le hit parade, quoi. Ou les expérimentations chaotiques, comme on vient de l'entendre, et les romances classiques. C'était ça la magie de Christophe.
Alors justement, François, puisque vous étiez son ami, quand il a été, il y a une période comme ça, c'est toujours le cas de tous les artistes, hein, décrié ou en tout cas bousculé par rapport au show business. D'ailleurs, le mot a fait rire Pascal Obispo tout à l'heure sur l'opinion que Christophe avait sur le show business. Mais il vivait comment les railleries qu'on pouvait faire sur Aline ou sur un côté kitsch?
Non, il s'en est rigoureusement jamais soucié. Ouais, ce que je vous disais, pour lui, c'était un vrai blues. Par ailleurs, il y a eu 3,5 millions quand même d'albums, enfin de la chanson vendue, quoi. Bon, donc c'est des chiffres absolument colossaux qu'on n'imagine même plus aujourd'hui. On sait même plus ce que ça veut dire. Bon, ça lui a permis, en tout cas, d'acheter quelques bolides de course, de les cramer avec sa générosité habituelle. Non, ça, il s'en souciait peu. De toute façon, lui, il vivait en même temps comme un va-nu-pied. Bah, c'était vraiment le beau bizarre. Bachung l'appelait le gitan blond. Effectivement, il pouvait passer 3 mois au Sainte-Marie de la Mer. Il avait la promotion d'un album à faire.
Il adorait les bateaux. On l'a pas encore dit, hein. Il adorait les bateaux.
Il adorait les bateaux et c'est pointu. Donc c'est l'espèce de barque qu'il y a dans le Midi. Enfin, il faisait aussi des croisières annuelles avec son vieil ami Daniel Filipacchi pendant des années. Jean-Marie Perrier, lui, et Daniel Filipacchi, tous les trois seul, si l'on peut dire.
Alors, puisqu'on parle de...
Voilà, il adorait
on a parlé, de la bande du, on a parlé de la bande du drugstore François Armanet, et dans cette bande du drugstore, si ma mémoire est bonne, il y avait Alain Bachung.
Oui, il y avait Alain Bachung, qui était aussi un de mes vieux amis, et Alain était là en prof de philo au lycée Carnot. Ça l'avait beaucoup amusé de se retrouver prof, alors que lui avait été un espèce de mimé de l'époque.
Mais si j'en parle, c'est parce que justement, il y a un lien très, très particulier, et c'est de ça dont Christophe m'avait parlé à votre propos. Le lien particulier entre Bachung et Christophe, ils étaient amis, ils avaient travaillé ensemble. Il y a même des chansons qui vont peut-être un jour, d'ailleurs, sortir d'un tiroir ou d'un ordinateur, que sais-je, qui avait été faites et l'un pour l'autre, entre guillemets. Mais vous lui aviez, j'aimerais que vous me racontiez ça, vous lui avez, comment dire, il s'est rendu compte grâce à vous que Bachung avait lui passé des messages en chanson.
Oui, ben ça c'était une... Bon, parce que c'est deux solitaires. Il s'était vu un moment, il s'était perdu de vue pendant très longtemps. Et il y a une vingtaine d'années, j'avais organisé en fait les retrouvailles pour l'Obs. Et voilà, donc c'est deux grands timides, tout à fait réservés. Et puis finalement, Christophe, avec sa une grande émotion, se lance et puis lui dit « Écoute, la première chanson de toi que j'adore et que j'ai écoutée, c'est Alcaline. » Et là, Bachung, il y a un silence, lui dit « Attends... » Mais Alcaline, il y a Aline dans Alcaline. Moi, c'était pour te dire, je t'aime de loin. Et l'autre, et Christophe est scié, lui dit, mais attends, c'est fou. Et Bachung lui dit, mais si, écoute les paroles. Tu ne m'as encore rien dit, t'aimes plus les mots roses que je t'écris. C'était une réponse à tes mots bleus. Alors là, moi, j'en avais la chair de poule, parce que, enfin, bon, évidemment, c'est ce qu'on appelle un miniscope dans le genre, ce que vous connaissez bien, Nagui, c'est là où tout à coup il y a quelque chose qui sort, vous n'imaginiez pas, pas ça, quoi.
Voilà. C'est un moment magique, bien sûr. Ouais.
D'autant que Bachung avait repris les mots bleus, et Bachung, quand il reprend même Christophe, il arrive à être peut-être encore plus génial que Christophe, ou quand il reprend Manset, bon, ça c'était la magie de Bachung. Cela dit, quand Christophe a repris les mots bleus après que Bachung ait repris les mots bleus, il en a refait encore un truc plus inouï, quoi. Bon, ça, c'est ça entre deux
artistes. Et grâce à cette anecdote, François Armanet, Christophe nous avait offert une reprise d'Alcaline où il était encore plus génial que Bachung en chantant Alcaline, pour l'anecdote. Mais il vous a cité avec justement ces fameux mots roses. Vous avez tenu à écouter un titre particulier de Christophe pour qu'on pense encore plus fort à lui et à sa musique.
Ouais, Tangerine, en fait, c'est là où on voit qu'il marie le rockabilly et l'avant-garde, quoi. C'est un duo avec Alan Vega. Alors moi, je me souviens avec mes amis, enfin mon ami Bayon et mon frère Max, on avait été au début des années 80 en Rex Club parce que Alan Vega donnait un petit concert solo. Christophe voulait à tout prix le rencontrer. Et en fait, la rencontre avec Las Vega, comme disait Christophe, ne s'est pas faite. Parce qu'il s'est pointé au concert, il a écouté tout le concert, Vega était prévenu, et puis finalement, Christophe a disparu. Bah, c'est un peu comme quand il doit venir à une émission, bah, il vient quand il lui chante, et là, il était parti. Donc ils se sont rencontrés après.
Mais ce qui est sympa dans votre dans ce que vous la manière dont vous racontez Christophe, c'est il faut pas oublier ses vannes aussi, son sens de l'humour. On a suffisamment dit qu'il était évidemment un artiste totalement éclectique, ouvert à toutes les formes d'art et génial dans la musique, dans la production, dans la manière dont il pouvait composer ou même diriger, produire les autres artistes. Mais aussi c'est un être humain, j'ai pas envie de parler de lui au passé. Génial, tendre, doux et vanneur aussi, avec beaucoup d'autodérision. On va écouter Tangerine. Merci François Armanet d'avoir pris le temps de nous parler de Christophe ce matin.
Oui, merci.
Portez-vous bien, François.
Oui, vous aussi. Bientôt. Merci.
Merci.
Great rain came, touching the infinity's prison. The creature made a war. Take the plane to Saturn. Oh, follow the Indian. Celebrate their lord. It knows Mrs. Cheyenne. It's a crucified photo of the wrong century.
Tangerine, Christophe avec Alan Vega. On va écouter. Bah, Leïla, toi, quel est le titre qui. Un petit extrait comme ça qu'on pourrait écouter de Christophe.
Moi, c'est Succès Fou parce que je suis très sensible à son côté vedette yéyé avec Aline. Ce slow qui a rendu les filles toutes folles et rêveuses dans le milieu des années 60. C'est aussi ce que j'entendais quand j'étais enfant chez moi. Ma mère adore Christophe, adore cette chanson. Elle a adoré les marionnettes. Et puis, on le voyait un peu kitsch comme ça, mais c'est joli dans ma bouche, kitsch. Et c'est devenu aussi ce chanteur Succès Fou dans les années 80 qui pouvait faire ça ou Minuit Boulevard ou Paradis Perdu. Et je l'adore, cette chanson.
Revenir dans notre mémoire, justement.
Elle me téléphonera.
Daniel, si tu avais un titre à retenir.
Bah, moi, ce qu'il y a, c'est que déjà, je voulais faire part de mon infinie tristesse, parce que moi, j'adorais le côté décalé de l'artiste. On a parlé qu'il créait la nuit quand nous, on est en mode veille. Sa délicatesse, ça, parce que ses interventions étaient rares et sa parole encore plus. Et j'avais l'impression qu'il vivait en parallèle à nos côtés, un peu inaccessible, doux, imprévisible, hein, ça a été souligné. Et comme le disait très justement Juliette Armanet, l'artiste était jamais dans le passé, toujours en recherche, mais il chantait comme personne la nostalgie. Alors moi, un de mes titres préférés, c'est Paradis Perdu, qui chantait en 73, alors qu'il était jeune en 73.
Bandit, un peu maudit, un peu vieilli, dans ce luxe qui s'effondre, te souviens-tu? Quand je chantais dans les caves de Londres, un peu noyé dans la fumée, ce rock sophistiqué, toutes les nuits tu restais là.
Voilà, Christophe, le génial Christophe. Merci Leïla, merci Daniel, merci à tous ceux qui ont pris le temps de venir témoigner de leur amitié pour Christophe, Jean-Michel Jarre, Raphaël, Juliette Armanet, Pascal Obispo ou François Armanet. Pardon à Tatiana Doronet avec qui nous devions faire l'émission aujourd'hui. Je sais qu'elle comprendra et qu'elle a compris. On la retrouvera lundi dans cette bande originale. Passez une douce journée. Prenez soin de vous, s'il vous plaît.